Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, pour ce premier dimanche de l'Avent, notre Mère l'Église nous fait entendre un passage fameux de l'Épître aux Romains, dans lequel saint Paul nous annonce l'aurore des temps messianiques. Voici, bientôt va paraître le jour. Ce sont ses paroles. Pour cela, saint Paul nous invite à trois choses. Tout d'abord, à nous réveiller. Deuxièmement, à accueillir la lumière. Et enfin, à nous revêtir de notre Seigneur Jésus-Christ. Se réveiller, accueillir la lumière, se revêtir de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, premièrement, l'apôtre cherche en premier à nous arracher au sommeil. Voici ses paroles. Il est grand temps pour vous de surgir du sommeil. On chantait dans l'Église primitive une hymne liturgique dont saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, une autre épître de saint Paul, nous a conservé ce fragment. « Réveille-toi, toi qui dors et surgis d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Réveille-toi, toi qui dors et surgis d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Il y a dans l'épître que nous lisons aujourd'hui une exhortation de même nature. Car le cri d'éveil poussé par l'apôtre est comme une anticipation de la trompette du jugement dernier, qui arrachera les morts au profond sommeil de leur tombeau pour la résurrection générale et le jugement général. Pour nous sortir du sommeil, saint Paul avance l'argument suivant. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Le salut est plus proche de nous. Il faut noter que ce salut dont saint Paul nous parle peut être considéré sous deux aspects, ou pour dire mieux, comme deux étapes. Premièrement, premier aspect ou première étape, ce salut est le terme de notre existence terrestre, notre mort. Nous recevons en effet, en retour d'une vie chrétienne unie à notre Seigneur Jésus-Christ, le salut, c'est-à-dire le bonheur du ciel réservé aux élus. Condition, bien sûr, de mourir dans un état de charité parfaite, sans attache aucune au péché, sans quoi il y aura du purgatoire, pour être purifié et recevoir ce salut au terme de cette purification après notre mort. Deuxièmement, deuxième étape, deuxième aspect, saint Paul, par le salut, nous parle de la fin des temps, du jour de la parousie, du retour de notre Seigneur, de cette deuxième venue, en puissance et en majesté, où le salut sera conféré dans sa plénitude aux fidèles qui ressusciteront dans la gloire, corps et âme, et où notre Seigneur apparaîtra dans toute sa beauté de ressuscité, en provoquant cette résurrection générale et cette glorification définitive de tout son corps mystique. Cette idée de jour du Seigneur, jour par excellence, appelé parfois simplement le jour, est déjà présente dans les textes de l'Ancien Testament, mais elle a subi dans le Nouveau Testament une double modification. Une distinction, en effet, premièrement, s'est établie entre les deux venues de notre Seigneur Jésus-Christ. L'une en faiblesse et en pauvreté, l'autre en puissance et en majesté pour le jugement dernier. Deuxième modification, le jugement dans le Nouveau Testament n'est plus tant l'œuvre de Dieu lui-même que celle de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa divinité bien sûr et dans son humanité également. C'est pourquoi le jour de Yahvé s'appelle désormais de préférence le jour du Fils de l'homme, ou encore le jour de Jésus-Christ. Et donc quand saint Paul nous dit « le jour est proche », il signifie à la fois ce temps qui précède notre mort, et également celui qui précède la parousie. Et que l'on considère l'un ou l'autre, ces deux temps n'appartiennent déjà plus à la nuit, ni aux ténèbres. Si ce n'est pas encore le plein jour, la nuit est tellement avancée que seuls nous conviennent les attitudes et le comportement du jour. Saint Paul nous exhorte à ne pas regretter les années disparues, passées, mais au contraire à nous réjouir d'être de moins en moins éloignés de la mort qui nous réunira au Christ pour toujours. Le salut est plus proche de vous, le jour est proche, c'est-à-dire ayons hâte d'être unis à notre Seigneur Jésus-Christ pour toujours après notre mort. Si nous menons une vie sainte ici-bas, et si nous avons hâte de voir Jésus glorifié lors de sa deuxième venue, c'est cela l'attitude que nous devons avoir. N'attendons pas avec impatience et ne salutons pas avec joie l'apparition du jour. Et rappelons-nous que certaines âmes qui sont passées par le purgatoire ont témoigné qu'elles ont été en purgatoire, des âmes très saintes, uniquement parce qu'elles n'avaient pas assez désiré le ciel, assez désiré d'être avec notre Seigneur. Une trop grande attache à cette vie présente, toute sainte qu'elle soit. Ajoutons que le jour est proche également parce que notre vie chrétienne est déjà éclairée des premiers rayons de ce soleil levant. Cette vie de la grâce que nous portons en nous, cette union des plus intimes avec notre Seigneur Jésus-Christ, est déjà ici-bas, une ébauche de la vie glorieuse qui se manifestera dans toute sa splendeur au jour du retour de Jésus-Christ dans toute sa gloire et sa majesté. Car la distance ne compte pas pour le soleil, ni les siècles pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que la parousie, lui, à l'horizon de nos âmes, que nous vivons déjà dans la lumière. À ce point de vue, le jour est proche. Il est à notre portée. Il nous pénètre dès à présent de ses rayons bienfaisants. Notre Seigneur sera vainqueur sur tous ses ennemis. Tous les ennemis de notre Seigneur qui nous font souffrir ici-bas, dans le domaine civil ou religieux, auront leur humiliation, leur défaite. Et nous, si nous sommes unis à notre Seigneur, dans ses souffrances, dans ses humiliations ici-bas, nous serons vainqueurs avec lui, au moins à la fin des temps. Ça, c'est ça. Dans ce but, Saint Paul nous rappelle, le début de notre vie chrétienne, en évoquant l'époque où nous avons commencé à croire. Quand il écrit cette épître aux chrétiens de Rome, c'est l'épître aux Romains, il parlait à des gens qui s'étaient convertis à l'âge adulte et qui avaient dû faire extérieurement profession de foi avant de recevoir le baptême. Pour la plupart d'entre nous, nous avons été baptisés juste après la naissance et avons reçu ainsi la vertu infuse de foi, sans en être conscients. Nous avons été ensuite, dès les premiers réveils de notre raison, instruits des vérités de la foi, que nous avons accueilli fermement et que depuis nous avons professé bien souvent, ne serait-ce par le credo à la messe le dimanche. Cependant, avec le temps qui passe, les difficultés qui surgissent, le poids de la chair, de nos passions qui se fait sentir, nous pouvons actuellement ne pas marcher aussi vite que nous le devrions, étant pris d'une sorte de somnolence, voire nous être totalement endormis sur le chemin. Si nous désirons recevoir ce salut dont saint Paul nous parle, il nous faut nous ressaisir et nous réveiller. Il est grand temps de sortir du sommeil, nous dit-il. On s'endort en effet de plusieurs façons, par lassitude, par découragement, par paresse. La torpeur guette le chrétien tiède et négligent. Beaucoup d'âmes sont endormies dans le péché, l'indifférence ou l'incrédulité. Saint Paul appelle sommeil, tout d'abord, la vie de ceux qui ne s'occupent que des choses temporelles, qui ne font aucun cas des réalités célestes. Au sens premier, c'est le sommeil profond de ceux qui vivent d'une façon toute charnelle, en qui la raison est comme abétie, en qui l'imagination tient la première place. C'est une vie remplie d'illusions, un rêve où l'âme court après des fantômes. Et malheureusement, beaucoup d'âmes vivent dans un tel sommeil qui les conduit le plus sûrement du monde à la mort éternelle, à l'enfer. Nous avons le devoir de prier pour le salut de ces âmes innombrables qui dorment à l'ombre de la mort, pour reprendre une expression de l'Écriture. Et c'est une partie du message de Fatima, prier pour les pécheurs. C'est la prière qui a été ajoutée à la fin de chaque dizaine. Ces paroles, cependant, nous concernent également, car ce sommeil peut s'entendre aussi du sommeil de la négligence, de la tiédeur. Il nous est bon, en ce début d'année liturgique, de nous examiner. Ne sommes-nous pas, en effet, pris de quelque somnolence dans notre vie spirituelle ? N'y a-t-il pas quelque relâchement dans nos devoirs envers Dieu, des résistances à sa volonté, de dureté envers le prochain, des refus de pardonner, des rancœurs ? Après avoir quitté le sommeil, deuxièmement, il nous faut maintenant quitter les ténèbres de la nuit, recevoir la lumière, car nous voici maintenant éveillés et préparés pour accueillir le jour, c'est-à-dire le salut. De quelles ténèbres sortons-nous ? Saint Paul parlait à ses lecteurs des ténèbres du paganisme, d'où les avait arrachés la foi au Christ et la grâce du baptême. Si pour nous, nous sommes loin de ce paganisme antique, les vices qui le déshonoraient ne sont que trop présents à notre siècle, apostat. Nous avons même dépassé d'une certaine manière l'iniquité des anciens païens, tant par la gravité des fautes qui sont commises aujourd'hui, que pour avoir abandonné, trahi, renié la foi de nos pères. Les païens auraient pu se défendre en disant « Nous ne savions pas, nous n'avions pas entendu de ce Rédempteur, de ce Sauveur. » Ce n'est pas le cas pour nous, ce n'est pas le cas pour notre monde. Notre monde n'a aucune excuse, il a rejeté volontairement, sciemment, avec malice, les bienfaits apportés par notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde dans lequel nous vivons est une révolte contre notre Seigneur et son Église, contre ce salut apporté sur la croix dans son sang. Ajoutons que nous-mêmes, nous ne connaissons que trop bien l'attrait des vices que l'apôtre stigmatise chez les païens. C'est pourquoi saint Paul nous exhorte à mener une vie honnête, comme on le fait en plein jour. Ici, il ne songe plus au jour de la parousie, mais à celui de la vie chrétienne. Il nous demande de nous arracher aux œuvres des ténèbres, aux ténèbres du péché, et de nous revêtir de notre armure pour que la lumière s'y reflète. Les vices qu'il nous demande de fuir sont ceux de l'obscurité, et saint Paul nous les présente comme une gradation croissante. La nuit, une nuit consacrée au plaisir, commence ordinairement par les banquets. Et saint Paul nous parle des excès dans la nourriture et dans la boisson, l'ébriété. Ces banquets risquent de se poursuivre dans la débauche. Et saint Paul nous parle de l'impureté. Et enfin de s'achever par les disputes et les coups. C'est un schéma classique. Ce schéma conventionnel que l'apôtre rappelle ne décrit pas nécessairement nos véritables péchés et passe sous silence une méchanceté peut-être plus raffinée et plus secrète mais plus grave. Mais qu'importe, la nuit obscure, propice au désordre et au crime, symbolise toutes les œuvres de ténèbres, celles qu'il nous faut rejeter pendant cette période de l'Avent, sensualité et ambition, injustice, égoïsme et dureté de cœur, orgueil et lâcheté. Pour cela, de la même manière que le matin au lever, l'homme s'habille, le guerrier revêt son armure, le chrétien, au début de l'Avent, lui aussi, doit se ceindre des armes de la lumière, se revêtir du Christ Jésus. La lumière, c'est le christianisme éblouissant de vérité et de sainteté. Les armes qu'elle frappe de ses rayons pour en faire éclater la splendeur, sont les vertus chrétiennes. L'apôtre nous convie à la pratique de la vertu par l'effort d'une vie profondément établie dans le Christ. Se revêtir des armes de lumière et donc se revêtir du Christ afin de s'assimiler à lui. Il s'agit dans l'exhortation de l'apôtre d'un appel à la sainteté. Et rappelons-nous que la sainteté, c'est nous transformer en notre Seigneur Jésus-Christ. Devenir d'autres Christ, selon une autre parole de saint Paul. Au ciel, il n'y a que des Jésus-Christ. Que des âmes qui ont été transformées en notre Seigneur Jésus-Christ. Qui reflètent pleinement la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le ciel. C'est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Être assimilé à lui, totalement. Qu'il n'y ait que Dieu en nous, que notre Seigneur en nous. Le chrétien, nous dit le père de Piccinni, un capucin du XVIIe siècle, est un homme revêtu de Jésus-Christ, un homme intérieurement animé de l'Esprit et de la grâce de Jésus-Christ, extérieurement revêtu de Jésus-Christ, de sa sobriété, de sa chasteté, de son humilité, de sa patience, de sa charité. De sorte que Jésus-Christ, seul et ses vertus, paraissent en cet homme. Concluant, il est temps de conclure, en nous rappelant que cet épître a eu une influence profonde sur l'âme de saint Augustin. Il a raconté lui-même dans ses confessions comment s'est passée cette conversion grâce à cet épître. Ce qui me retenait, écrit-il, c'était ses misères et ses vanités de vanité, mes anciennes amies qui me tiraient doucement par mon vêtement de chair et me murmuraient tout bas « Est-ce que tu nous renvoies ? Quoi, dès ce moment, nous ne serons plus avec toi pour jamais ? Et dès ce moment, ceci et ceci encore ne te sera plus permis et pour jamais ? Quelles ordures ! Quelle infamie ! Et c'était à peine si j'entendais à moitié leur voix, car elles ne m'abordaient pas en face, comme pour une loyale contradiction. Elles chuchotaient dans mon dos, et quand je voulais m'éloigner, elles me tiraillaient furtivement pour me faire tourner la tête. Elles réussissaient à me retarder, car j'hésitais à les repousser, à me débarrasser d'elles pour me rendre où j'étais appelé. Et la puissante habitude me disait « Pourras-tu vivre sans elle ?» Tout à coup, j'entendis une voix partie de la maison voisine, voix d'enfant ou de jeune fille, je ne sais, qui chantait et répétait à diverses reprises « Prends et lis, prends et lis !» Et aussitôt, changeant de visage, je cherchais très attentivement à me rappeler si c'était un refrain en usage dans quelque jeu d'enfant. Et rien de tel ne revint dans ma mémoire. Réprimant la violence de mes larmes, je me levai. Et la seule interprétation que j'entrevoyais, c'est qu'un ordre divin m'enjoignait d'ouvrir le livre de l'apôtre et de lire le premier chapitre sur lequel je tomberai. Je le pris, l'ouvris et lus tout bas. C'était le premier chapitre sur lequel je tombais. Et voici ce qui était écrit. Ne vivez pas dans les festins et dans les excès du vin, ni dans les voluptés impudiques, ni dans un esprit de contention et de jalousie, mais revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ et ne cherchez pas à contenter la chair dans ses convoitises. Je ne voulus pas en lire davantage. Je n'en avais plus besoin. Ces lignes à peine achevées, il se répandit dans mon cœur comme une lumière de sécurité qui dissipa les ténèbres de mon incertitude. Et saint Augustin était converti. Une grâce était venue par la lecture de cette épître. Une grâce puissante. Prions donc saint Paul et saint Augustin de nous aider à faire un bon avant, en nous tenant le plus possible loin des œuvres de ténèbres que saint Paul a stigmatisées. Par la vigilance et la mortification de nos mauvais penchants. Et là, pensons à prendre des bonnes résolutions pour cet avant. Demandons-leur aussi une vie plus unie à notre Seigneur Jésus-Christ dont nous devons nous revêtir de plus en plus, dont nous devons prendre en main les armes de lumière. Ainsi, nous pourrons recevoir ce salut que notre Seigneur est venu nous apporter, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.